franceinter.fr.
Bonjour à tous. La Centrafrique est un pays instable où les dirigeants prennent plus souvent le pouvoir par les armes que par les urnes. Mais il y a un peu plus de 2 ans, le conflit en RCA a pris une tournure intercommunautaire religieuse. Il faut remonter à mars 2013 pour comprendre cette situation complexe. Un coup d'État, il se solde par le départ de François Bozizé, renversé par des rebelles de la Séléka. C'est une alliance de groupes armés, majoritairement musulmans. Le chaos s'installe, les exactions se multiplient. En parallèle, d'autres milices secrets, cette fois à majorité chrétienne, les anti-Balaka. Ce sont des groupes d'autodéfense, ils s'en prennent aux civils musulmans qu'ils associent aux rebelles. Plus de 6000 morts, près d'un quart de la population déplacée, la moitié des habitants sous assistance humanitaire. Une intervention internationale menée par la France reçoit alors un mandat de l'ONU, c'est l'opération Sangaris. Aujourd'hui encore, des soubresauts de violences régulières rappellent la fragilité de la situation. Et c'est dans ce contexte que l'élection présidentielle se déroule, sans incident majeur pour le premier tour. Le second, lui, vient d'être reporté. Il devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Antoine Gignot et Gilles Gallinaro se sont rendus à Bambari. C'est au nord-est de Bangui, la capitale. Bambari est l'exact résumé de la situation du pays, comme coupé en deux. Les quartiers chrétiens et musulmans sont reliés par un pont protégé par l'ONU, ultime lien entre ces deux communautés qui ont encore du mal à se regarder. Centrafrique, vers la paix, les armes à la main, c'est un reportage d'Antoine Gignot, prise de son Gilles Gallinaro.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bambari, c'est une ville coupée en deux. Nous sommes sur le pont qui traverse la rivière Waka. À l'est, la rive gauche, majoritairement musulmane. La rive droite, elle, est peuplée de chrétiens. Au milieu, les hommes de la MINUSCA qui tentent de garder le contrôle.
Je m'appelle Legousse Jean-Marie.
On est juste à côté du pont qui coupe la ville en deux. Ce pont, aujourd'hui, il est accessible un peu pour tout le monde.
Auparavant, on ne pouvait pas traverser. C'est maintenant que on traverse quand même.
On recommence.
On recommence, petit à petit. Mais aller dans les quartiers de musulmans, c'est un peu difficile. Parce qu'il y en a, ils ont des armes. Eux là, quand ils traversent le pont là, vous voyez des grenades dans leurs poches. Ils viennent ici, ils achètent de quoi manger. Mais nous, les chrétiens, quand nous voulons traverser, on nous saisit.
Même si le pont, aujourd'hui, est libéré par rapport à l'an dernier, la situation n'a pas encore totalement changé.
Non. Si tu voudrais aller à la pêche ou bien chercher quelque chose à manger, tu écoutes des coups de fusil dans la brousse. On n'a pas le temps d'aller chercher de quoi manger. Et nous sommes immobilisés comme ça. Si la femme voulait aller chercher du fagot, elle a eu peur. Mon frère voulait aller faire la pêche, il a eu peur. Aller faire la chasse, il a eu peur. Mais comment on peut vivre? Des gens comme moi là, j'ai fait 6 mois dans la brousse avec mes enfants. Et puis j'ai perdu 3 garçons contre du paludisme. Et là, là, si la guerre continue, où on va vivre? Même aller dans la brousse pour chercher quand même du manioc ou bien de quoi à manger, vous attendez le coup de fusil dans la brousse. La nuit, on ne dort pas correctement. Mais tous les peuls, Mbororo, dans la brousse, ils ont aussi pleinement des armes.
Les bergers.
Ok. Non, nous ne sommes pas totalement rassurés.
Je m'appelle Edith. Je suis arrivée de Bangui à Bambari il y a 3 mois. Comme je suis une femme, je peux traverser sans problème, aller de l'autre côté, dans le quartier musulman, et revenir. Mais pour les hommes, ce n'est pas possible. Eux ne sont pas aussi libres de circuler. Il y a encore trop d'armes de part et d'autre, aussi bien chez les ex-Séléka que chez les anti-Balaka. Les hommes ont encore trop peur. Tant qu'il n'y a pas eu de désarmement, ils ne peuvent pas aller et venir comme ils veulent. De ce côté, côté chrétien, la situation s'est améliorée. Du côté anti-Balaka, il y a déjà eu un peu de désarmement volontaire. Ils ont rendu quelques armes, des machettes, ça a rassuré les gens.
Le désarmement, ce sont les hommes de la MINUSCA qui sont censés s'en occuper. Mais ici, les casques bleus congolais ont du mal à faire le poids, mal considérés, accusés plusieurs fois de viol et d'avoir tiré sur des civils. Leur mission consiste essentiellement à dialoguer avec les responsables des groupes armés et à permettre aux chrétiens et aux musulmans de circuler d'une rive à l'autre. Ils sont là, en permanence, abrités derrière des sacs de sable, une mitrailleuse à portée de main.
Bonjour, je m'appelle... Franck Mutunda, je suis commandant, je suis le numéro 2 du contingent de la République démocratique du Congo dans le cadre de la MINUSCA.
Juste à côté de nous, un camion est en train de traverser. On voit aussi des motos qui passent. Nous sommes sur la ligne rouge.
Nous sommes au pont sur la rivière Ouaka qui marque la séparation entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne. De Bangui jusqu'à la rive droite de la rivière Ouaka, vous avez les chrétiens. Et de la rive gauche jusqu'à l'est du pays, là vous avez un mélange de musulmans et de chrétiens. Donc c'est pratiquement la démarcation, si on peut parler en termes de communauté, entre les chrétiens et les musulmans dans la partie est de la République centrafricaine.
À la fin de l'été dernier, un chauffeur de taxi a été tué ici. C'est ce qui a remis un peu le feu aux poudres. Depuis, la situation s'est apaisée, mais ça reste tendu.
La situation s'est apaisée, mais la circulation n'est pas encore totalement à 100%. Moi, je suis vraiment optimiste. Je me dis que la situation est en train de s'améliorer et d'aller vers cet état-là où les gens peuvent se côtoyer d'une rive à l'autre.
Le pont mesure à peu près 100 mètres de long. Ce que vous avez eu à gérer ces derniers mois, ce sont des actes de vol, de raquettes. Qui est-ce que vous avez en face? Les responsables de ces troubles aujourd'hui, c'est qui?
En tout cas, au niveau des groupes armés, ils sont suffisamment sensibilisés. Il n'y a plus de bataille rangée entre Anti-Balaka et Séléka. Ce sont deux jeunes, des deux communautés, et des brigands de part et d'autre qui créent ces incidents-là, mais bon,
qui raquettent
la population, qui sèment du désordre, ce n'est plus les groupes armés. Le responsable maintenant des quelques incidents, c'est la population.
Car en dehors de Bangui, la capitale, l'État centrafricain ne contrôle absolument rien. Pas de gendarmes, pas de policiers. Dans les provinces, chaque localité a son groupe de combattants anti-Balaka ou ex-Séléka. L'ancienne alliance des musulmans du Nord a explosé en janvier 2014. À Bambari, c'est Ali Daras, un Nigérien, qui a pris la tête des miliciens. Il a rebaptisé son groupe UPC, Union pour la paix en Centrafrique. Ces hommes tiennent la rive Est et les quartiers musulmans. Ils contrôlent l'exploitation de l'or, des diamants, du café. Ils assurent aussi la sécurité des troupeaux des éleveurs Peul dans le nord du pays. Mais dès qu'on traverse le pont, le rapport de force s'inverse. En allant vers Bangui, les convois des commerçants musulmans sont systématiquement attaqués par les anti-Balaka. Pour éviter les massacres et les affrontements, c'est l'ONU qui sécurise les convois. Le centre névralgique de Bambari, c'est la gare routière, avec des dizaines de camions qui se regroupent pour faire la route jusqu'à Bangui, sous escorte de la MINUSCA. À côté de nous, des éleveurs sont en train de faire monter des zébus sur les véhicules. Il y a aussi des sacs de riz, des sacs de farine. Toutes les matières premières de la région transitent par ici.
C'est Oumar Ngoma, chauffeur, ex-chauffeur à Bambari, membre du OT, Association des Transporteurs de la Waka.
Depuis quand est-ce que la MINUSCA vous escorte?
Bon, pour l'escorte, c'est récemment, à peine une semaine, un an aujourd'hui.
D'accord.
Un an. Deux fois, il y en a qui montent sur le camion et puis le chef Il est avec d'autres éléments à bord de son véhicule personnel, tel que le pick-up que vous voyez là. Bon, il prend le devant, il y a un comme ça qui reste derrière. Bon, les autres sont sur le véhicule, de ce côté. Bon, donc la population les voit comme ça, ils ont peur d'attaquer le véhicule. Quoi. Bon, le véhicule passe les hommes. Mais si tu viens sans escorte, ah, tu risques de périr.
Sans escorte, c'est pas possible.
Ah, c'est pas, tu veux du suicide.
Je m'appelle Abdul Haroun. Je garde les bêtes au parc à bestiaux. On a peur des anti-balakas. Il y a eu une attaque l'an dernier et une autre récemment pendant la saison sèche. La plupart du temps, ils attaquent la nuit. Ils ne viennent pas le jour à visage découvert.
Les bêtes qui passent par ce trajet-là, chaque année, ça représente combien d'animaux ?
La période de transhumance qu'à Bagarasa, on a les guendou.
Il y a beaucoup d'animaux, on ne peut pas les compter. La transhumance n'est pas régulière. Si on arrive à un endroit où il y a de l'eau, on va y rester, mais c'est dangereux pour les bœufs et pour l'éleveur. On ne peut pas rester longtemps. Même si on perd une bête, on ne peut pas aller la chercher, on risque d'être attaqué.
Parfois, ils mettent du sel pour attirer les bœufs et nous piéger. Il leur arrive aussi de tirer à balles réelles sur les bêtes. Le troupeau est effrayé et s'enfuit. Quand il y a une vache qui vèle, il faudrait pouvoir rester à ses côtés, mais ce n'est pas possible. On est obligé de rester ici avec toutes nos familles. On n'a nulle part où aller. On n'a que ça comme travail pour vivre. Donc, quelle que soit la situation, on n'a pas le choix, on doit continuer.
Je m'appelle Moussa Abdoulaye. Je suis trader, homme d'affaires. Maintenant, ça va mieux qu'il y a quelque temps. Il n'y a pas trop de camions dans le convoi, alors on va essayer. Quand ils s'approcheront de Grimari ou de Bangui, j'appellerai mes amis pour voir ce qu'ils disent. Je saurai ce qui se passe sur la route et je pourrai évaluer la situation. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. En tout cas, mieux qu'il y a deux mois, ou même que le mois dernier.
Mais la situation reste fragile.
Oui, la situation est toujours fragile, parce qu'il y a des quartiers où tu ne peux pas aller si tu es musulman. Et si on voit que tu ressembles à un musulman, tu ne peux même pas aller jusqu'au pont qui traverse la Waka, cette rivière-là. Si tu vas là-bas, tu ne reviens pas. Ils te massacrent.
Vous ne traversez pas.
En tant que musulman, je ne peux pas. Je ne peux même pas aller là-bas. Si je prends le risque, je ne reviens pas. C'est sûr à 400%. Et je ne sais même pas pourquoi. De toute ma vie, je n'ai jamais tiré un seul coup de fusil. Je ne possède même pas d'armes. Je n'en ai même jamais tenu dans mes mains, de toute ma vie. Mais je serai toujours une cible juste parce que je suis musulman. Et même si je suis d'ici, de ce pays, ils ne font pas de distinction entre ceux qui sont des criminels, ceux qui sont dans les groupes armés, ou les autres. Ils voient juste que tu es musulman, et c'est une raison suffisante pour qu'ils te tuent, point final. Sans même poser une seule question, sans aucune enquête. Et je te le dis, je l'ai vu de mes propres yeux à Bangui. Entre le quartier PK5 et la sortie de la ville, plus de 27 guetteurs m'ont fait des gestes menaçants. Juste parce qu'ils voyaient que je suis musulman. Et pour arriver ici, à chaque village qu'on a traversé, il y avait partout des guetteurs. Tous ceux qui m'ont vu ont passé un doigt sur leur cou pour me signifier « Ah, tu es encore là ? On va t'abattre. » Juste parce qu'ils voient que je suis musulman.
Face à l'ampleur des affrontements, beaucoup de Centrafricains ont dû quitter leur quartier. Aujourd'hui, un habitant sur cinq n'a plus de maison. Ici, ce sont surtout les chrétiens qui ont fui face à l'arrivée des hommes de la Séléka. Il y aurait dans la région de la Waka au moins 80 000 déplacés. s'est déplacé. Ils se sont réunis ici, à quelques centaines de mètres du camp des militaires de la MINUSCA. Ils sont près de 5000 à dormir dans des cabanes en paille, sous des bâches, avec quelques petites échoppes, une tente qui sert de cinéma, et des marmites un peu partout dans les allées.
Oui, c'est barré. Il est retourné dans le bunker. Félicitations, Mac. Vous avez sauvé Macmillan. En forme du nord et du sud, les armées gouvernementales sont dans l'alerte.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter?
Oui, je m'appelle Adélie.
Je m'appelle Christelle.
Comment on vit dans le camp aujourd'hui? Comment on trouve la nourriture? Comment on se débrouille?
Vraiment, en tout cas, c'est très difficile. Parce que ici, là, il n'y a pas de manioc. Si on peut voir le gombo.
On peut expliquer pour les... Parce qu'en France, ils ne connaissent pas forcément c'est quoi comme plat.
Le gombo, c'est la sauce gluante. Faire la préparation avec la viande ou soit avec la feuille du manioc.
Oui.
De la viande, on en trouve?
Ici, là, mais il n'y en a pas de viande, là, ici.
Est-ce que vous, vous sortez du camp?
Non.
Jamais?
Jamais, c'est tout.
Depuis quand vous êtes ici?
Presque un an.
Vous, ça fait un an que vous n'êtes pas sorti du tout du camp?
Jusqu'à là.
Depuis un an, là, elle n'a même pas vu sa maison. Elle est partie de chez elle.
Quand vous avez quitté la maison, c'était après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Sont partis en secret leur maison. Ils ont commencé à mettre le feu, à incendier des maisons. C'est là où ils ont fui pour venir rester au camp des personnes.
C'était quand et qu'est-ce que vous avez emporté avec vous?
Il y a quoi?
Mais en partant, ils n'ont rien emporté à part les enfants qu'ils ont pris pour fuir avec nous.
Et les femmes ne sont pas les seules à rester cloîtrées à l'intérieur du camp. Parmi les déplacés chrétiens qui vivent dans de minuscules cabanes en paille, sous des bâches déchirées, il y a aussi des musulmans d'origine peul. Ils ont refusé de collaborer avec les miliciens de l'ex-Séléka, considérés comme des traîtres. Ils se sont réfugiés ici.
Bonjour.
Je m'appelle Abdirahman.
Qu'est-ce que vous, vous pensez de toute cette situation? Vous êtes bloqué ici, dans le quartier?
Moi, ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait souffrir. Regarde la trace des cordes des Séléka, là. Tu vois ces cicatrices que j'ai là? Ce sont les traces de leurs couteaux. Ils ont essayé de me poignarder. Et j'ai pris des coups de couteau ici aussi. Après, on m'a emmené dans ce camp.
Quand vous avez été attrapé, qu'est-ce qu'on vous a dit?
Ils m'ont attrapé tout simplement parce que je n'ai pas voulu intégrer leur groupe. Je suis resté vadrouillé dans mon village. Je leur ai dit, ce que vous faites, ça va se terminer un jour. Mais moi, je ne veux pas faire ce genre de choses. Parce qu'à la fin, quand le calme va revenir, je ne veux pas être mal vu. Ils ont détruit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Même nos récoltes de café, ils les prennent, vont les vendre et gardent l'argent. Moi, je leur ai demandé de me rendre mon café et ils m'ont battu.
Quel regard vous portez aujourd'hui, vous, sur l'autre partie de la ville? Ces gens-là, c'est des proches de vous, c'est de la famille, c'est des gens que vous connaissez. Qu'est-ce que vous pensez?
Moi, je me suis dit, ils sont venus pour détruire le pays. C'est du banditisme. Avant, ils laissaient aux gens leurs moyens de subsistance. Quand ils avaient faim, on leur amenait du manioc qu'ils achetaient et qu'ils mangeaient. Mais maintenant, ils ne font que nous tuer, nous chasser de nos plantations et ils prennent nos récoltes de force. L'ami avec lequel tu te promènes, ils le prennent et ils le tuent sous tes yeux. Et ça, ça fait très mal. Je me suis dit, ce ne sont pas des gens qui sont venus pour vivre avec nous, ça m'a mis en colère. C'est pour ça qu'on m'a amené ici avec les chrétiens.
Vous avez essayé de leur parler aux gens de la Séléka, aux musulmans de l'autre côté de la ville?
En 6 mois passés ici, mes yeux n'ont même pas vu un peul. Comment voulez-vous que je les rencontre pour discuter?
Et si vous deviez leur dire quelque chose, qu'est-ce que vous leur diriez?
Mais pourquoi voulez-vous que je parle avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas ?
La réconciliation, est-ce qu'elle est encore possible ? Vous dites, quoi qu'il arrive, je ne leur parlerai plus jamais ?
Moi, je veux seulement qu'on les désarme, c'est tout. Comme ça, on pourra vivre ensemble comme avant.
Vous vous demandez quoi pour être réconcilié, pour pardonner ? Un changement politique ? Un jugement ? Une réparation ?
Non.
J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai même dû abandonner ma femme et mes enfants. J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Depuis qu'on m'a emmené ici, je ne les ai pas revus. Alors ça me fait réfléchir. Que nous arrive-t-il ? Dans notre pays, tu ne peux plus te promener seul librement. Que se passe-t-il ? Si tu veux te promener, ils viennent te tabasser pour rien. Et s'ils voient que tu as des objets de valeur, ils appellent d'autres gars pour te les voler. Si c'est une maison, ils récupèrent les biens et incendient la maison. Ils attachent des gens sur leur lit et mettent le feu aux maisons avec des gens à l'intérieur. Et tout ce que je vous dis, c'est vrai. Tout ce qu'ils m'ont fait, c'est ça qui m'a mis en colère et qui m'a amené ici avec les chrétiens. Ils m'ont fait beaucoup souffrir. C'est pour ça que je parle.
Prévenir tout débordement possible. S'il vous plaît, partagez les informations. Il faut qu'on préserve les acquis importants et qu'on respecte pleinement la volonté des électeurs. Ainsi, j'exhorte tout le monde à donner l'exemple et de se comporter en digne perdant ou gagnant une fois que les résultats seront proclamés par l'ANE et ensuite par la Cour constitutionnelle. Évitons toute rumeur et référons-nous seulement les proclamations officielles par l'ANE et ensuite les proclamations finales de la Cour constitutionnelle.
Je m'appelle Dangba Dieu Béni. Je suis étudiant en classe de 3e. Bambari n'est plus Bambari. Auparavant, nous marchions par-ci, par-là, mais actuellement, nous ne pourrions plus marcher par-ci, par-là par rapport à la situation du pays. Vous savez, quand tu es chrétien, lorsque tu aimerais partir là-bas au Bornou, parfois on te tue, parfois on te braque, parfois on te fait n'importe quoi. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent pas aller là-bas.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été de l'autre côté ?
Depuis 2013 jusqu'à présent 2016, je crois que ça fait 3 ans aujourd'hui.
Sans aller de l'autre côté ?
Non, il y a parfois des gens qui partent là-bas, mais pas beaucoup. Moi, ça fait aujourd'hui 3 ans que je ne vais pas là-bas, parce que c'est trop dangereux.
Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Est-ce que cette élection présidentielle peut changer quelque chose ?
Oui, ça peut beaucoup changer quelque chose dans notre pays. Parce que dès que l'élection aura lieu, dès que le président va monter sur le pouvoir, directement, il y aura un changement. Le président va décider pour les choses qui ne sont pas bonnes. Il va mettre des choses en place. Il va diriger bien le pays.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une vraie réconciliation ? Est-ce que vous, les chrétiens, vous êtes prêts ? Et est-ce que les musulmans, ils sont prêts aussi ?
Nous, les chrétiens, nous sommes prêts à réconcilier avec notre frère là. Mais ce sont notre frère là qui ne veut pas nous comprendre. À chaque fois qu'on va chez eux, on dit que non, la paix revienne. À chaque fois qu'on la paix revienne, il est en train de faire n'importe quoi.
Aujourd'hui, à Bambari, la principale faction qui contrôle la ville, c'est l'UPC. Ce sont les mercenaires d'Ali Daras, oui. Les anciens Séléka. Ces gens-là viennent d'où ?
Ces gens-là, ce sont des mercenaires tchadiens et ce sont aussi des gens qu'on appelle les Janjaweed, les anciens rébellions du Soudan. Ce sont ces gens-là qui sont en train de maltraiter les gens, en train de tuer les gens par désordre. Et aussi, il y a des bandits professionnels centrafricains. J'aimerais dire aux Nations Unies de venir intervenir pour cette situation-là, pour amener quelque chose qui pourrait aider la population, parce qu'il y a les flammes de feu qui sont en train de brûler les maisons ici à chaque fois. Vraiment, la MINUSCA n'a pas fait son travail. Ils n'agissent pas. Même pendant la nuit. Pendant la nuit, les braqueurs sont allés même chez moi pour me braquer. Je suis venu dire à la MINUSCA, voilà, les braqueurs sont venus en plein de la nuit pour me braquer. Pour qu'ils interviennent, ils n'interviennent pas. Ils me disent que moi-même, je peux aller me débrouiller. Et je ne sais pas quoi faire. Donc, cela veut dire que les Nations Unies n'a pas fait son travail. Nous avons l'impression que nous sommes abandonnés.
Abandonné, c'est le mot qui convient le mieux pour décrire l'ancien quartier de Béni Dambadieu, à moins 1 kilomètre du camp de réfugiés. Sa maison, comme beaucoup d'autres, n'a plus de toit. Il ne reste que les murs, noircis, calcinés. Pour trouver une trace de vie, il faut grimper jusqu'au sommet de la colline. C'est là que se trouve la cathédrale de Bambari, dernier bastion
de la présence chrétienne. Malgré les attaques, malgré les soldats musulmans de l'ex-Séléka qui montent la garde devant le bâtiment, les prêtres sont restés là, seuls, au milieu des ruines.
Je suis l'abbé Thibault, vicaire paroissial à la cathédrale.
Là, ça c'est une grenade qui a explosé ici. Ils ont jeté une grenade ici, ça a explosé. On a nettoyé seulement avec un balai. C'est ce que vous voyez là. Quand il y a eu cette attaque...
C'était quel jour?
Le 7 juillet 2014. Donc on a lancé, jeté une grenade là-bas, là. Et puis ça a tué trois personnes d'une même famille. Dans cette chambre qui est là-bas, là, quatre personnes ont été mortes là. C'est ça ce qui a été défoncé. Oh non. Voilà, c'est ici, ils ont cassé ici. Vous voyez la couleur de la porte est un peu différente du cadre là. Donc c'est ici qu'ils ont défoncé la porte là. Je dors ici, ils ont tout emporté. Même mon lit.
Les gens qui ont attaqué ce jour-là, c'était qui?
C'était un groupe de musulmans. Il y en avait en tenue.
Militaire?
En tenue militaire, ouais. Et il y en avait qui n'étaient pas en tenue.
Veillons nous lever pour conclure notre célébration. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.
Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Et bonne journée à vous.
Alors d'abord, si on regarde tout autour de nous, effectivement, à 200 mètres d'ici, des maisons ont perdu leur toit, des habitants sont partis. On a l'impression que vous êtes un peu les derniers représentants de la présence des chrétiens ici dans ce quartier. Comment est-ce que vous le vivez?
Alors, nous, c'est là où nous avons notre mission et nous dormons ici. Nous ne savons pas où aller. Et c'est d'ici que nous exerçons notre mission au milieu de ce peuple-là qui était autour de la cathédrale ici. On vivait bien en harmonie avec la communauté musulmane. Jusqu'au moment où la crise a déclenché. Et avec cette crise-là, la population non musulmane ne pouvait plus supporter les attaques perpétrées sur elle. Donc finalement, cette population a pris fuite, d'abord pour se réfugier ici à la cathédrale, parce que c'était un site. Il y a eu beaucoup de malentendus, et puis finalement, le site de la cathédrale a été attaqué. Quand le site de la cathédrale a été attaqué le 7 juillet 2014, la population non musulmane qui s'était réfugiée ici a encore pris fuite. Alors donc, vous voyez, c'est comme ça, à cause de ces exactions. Donc tout le monde a quitté ce quartier que vous voyez là. Vous avez dû constater, il n'y a plus de toit, personne n'habite ce quartier là.
Les maisons sont totalement abandonnées.
Abandonnées, détruites, comme vous le voyez là.
Vous vous sentez comment, vous, aujourd'hui, dernier témoin de ce qui a été un quartier peuplé de chrétiens au milieu d'une moitié de ville qui est aujourd'hui majoritairement musulmane?
Je suis confiant. Je suis confiant avec moi-même, avec ce que je fais ici, parce que je me dis, pourquoi avoir peur? Nous rassurons la population d'abord, parce que avec notre présence, ça rassure un peu la population pour dire que, voilà, on ne fuit pas, nous restons avec nos pasteurs. Nous les rassurons Nous n'avons pas intérêt à nous fuir, quoi. Voilà, donc c'est pour cette raison-là que nous sommes là.
En sortant de la cathédrale, on nous demande qui nous sommes. Les miliciens montent la garde, appuyés sur leur kalachnikov, le regard vide. Le plus jeune n'a pas 16 ans. Ces enfants soldats, l'UNICEF tente de les ramener vers le chemin de l'école ou de leur apprendre un métier, mais les négociations sont longues. Depuis 2013, 3500 adolescents ont été libérés de l'emprise des groupes armés. Il en resterait entre 6 et 10 000 dans les rangs des anti-Balaka et des ex-Séléka.
J'ai vu arriver les soldats, je les ai vus incendier notre maison. Ils ont tué mon père. C'est après avoir vu et vécu tout ça que je suis rentrée dans ce groupe armé. Je me disais que j'allais aussi me venger en faisant la même chose aux autres. Je voulais juste me venger. On était postés au niveau de la base. Certains chefs nous envoyaient chercher des trucs à manger qu'on leur préparait parfois. Mais nous, en retour, on ne mangeait pas bien. C'est pour ça que je me suis dit que ce travail était inutile. À partir de ce moment-là, j'ai longuement réfléchi aux possibilités de m'échapper.
Toi, tu es prêt aujourd'hui à pardonner aux deux camps, aussi bien ceux qui ont fait du mal à ta famille au départ et les Séléka qui t'ont fait travailler?
Oui, tu es prêt. Tu peux pardonner.
J'ai 14 ans. Quand les anti-Balaka sont venus, ils ont incendié nos maisons, ils ont tué une personne de ma famille à Bangui. Ça m'a rendu comme fou et je me suis engagée dans le groupe armé. Le chef m'envoyait toujours sur les barrages. Je n'avais pas d'argent sur moi, alors il m'envoyait là-bas. Quand des voitures passaient, je demandais la carte d'identité des passagers. Celui qui n'avait pas de carte d'identité devait nous donner de l'argent. Ça nous permettait de vivre, d'acheter à manger.
C'est pareil, toi tu étais armé aussi, t'avais quoi comme arme ?
J'avais un DKM, une mitrailleuse sur pied. Je l'ai tellement utilisé que après, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Quand on nous a emmenés à Bambari, j'ai quitté le groupe. J'ai compris que ce n'était pas la bonne voie et je suis partie.
Combien de temps au total ?
Deux ans. Quand je suis partie, j'étais maigre. Maintenant, je vis mieux. C'est grâce à une ONG qui nous donne de l'aide. On va à l'école. Si Dieu me prête vie, après mes études, je deviendrai ministre. Ministre de l'emploi et de la fonction publique.
Elle est bien comme machine ?
Ouais.
Ouais.
Moi, je m'appelle différemment Ueli. Je suis chargée de la protection nationale basée au bureau de Bambari.
Quand vous récupérez ces enfants,
oui.
De quel accompagnement est-ce qu'ils ont besoin ?
En fait, de toutes les manières, c'est des enfants qui ont subi des différentes formes de violence quand ils sont encore avec les groupes armés. Quand on les démobilise, ça, c'est vraiment tout un travail qui devait être fait. Surtout beaucoup plus l'accompagnement psychologique, c'est-à-dire leur apprendre à comment vraiment se sentir comme enfant. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un processus qui est mis en place.
C'est des enfants qui ont eu une vie d'adulte.
Voilà. Donc maintenant, il faut ramener ces enfants comme si vraiment c'était des enfants. Donc voilà vraiment le but. Donc c'est de faire un travail avec ces enfants pour leur faire oublier comme quoi vous n'êtes pas des adultes, vous êtes des enfants. Voilà la place d'un enfant, voilà là où se trouve un enfant. C'est tout un travail qui est fait dans ce centre parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont engagés dans ce centre de transit. Donc voilà à peu près tout le travail qui est fait.
On a vu beaucoup de garçons, il y a des filles aussi parmi les groupes rebelles. En général, leur rôle, c'est quoi ?
Parmi les enfants qui sont démobilisés, ici dans la Waka, on rencontre aussi des filles. Donc, ces filles aussi ont été transitées dans ce CTO. Ces filles, parfois, c'est aussi des combattantes. Donc, on a connu certaines parmi elles, c'est aussi des combattantes. D'autres sont là pour faire la cuisine, les ménages. Bon, on peut dire, d'autres aussi servent de l'esclavage sexuel. On peut dire ça comme ça. Donc, vous voyez, on exploite certaines filles à sa fin. Donc, voilà beaucoup plus le travail, le rôle que jouent les filles, beaucoup plus dans les groupes armés.
Dans le centre-ville de Bambari, la mairie est restée ouverte, mais à quelques dizaines de mètres du bureau du maire, on aperçoit les hommes de la Séléka, et c'est l'ensemble de l'équipe administrative qui est sous haute surveillance. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Abel Machipata, président de la délégation spéciale de la ville de Bambari.
Si on regarde la situation générale, ces dernières semaines, les affrontements ont cessé à l'intérieur de Bambari. Pour autant, on a une ville qui reste coupée en deux, rive est plutôt des musulmans, rive ouest plutôt des chrétiens, même si ça reste mélangé. Est-ce que ces deux communautés se parlent aujourd'hui ?
Il y a 4 ou 5 mois de cela, la ville était une ville invivable. Mais maintenant, depuis un mois et même avant le référendum, on peut circuler plus ou moins librement. Peut-être c'est la rive droite qui n'est pas tellement accessible à la communauté musulmane. La situation va se normaliser.
Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est le processus électoral qui a amené la stabilisation ? Est-ce que c'est les différentes factions qui sont tout simplement fatiguées ?
Les différentes factions sont fatiguées. Ils sont fatigués de cet affrontement inutile. Les anti-Balaka et les Séléka ont même déjà signé un accord de cessation des hostilités. Et l'espoir de tous les Centrafricains et de la population de Bambari, c'est de voir que les élections se terminent en beauté et que le nouveau président qui sera élu puisse ramener définitivement la paix dans notre ville.
On parle beaucoup de réconciliation, de nécessité de rapprocher les deux communautés, les chrétiens, les musulmans. On parle moins de jugement, de procès. À quelques mètres d'ici, on a le tribunal qui est une salle totalement abandonnée. Est-ce qu'il y aura un temps pour vous ? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait un temps pour la justice ?
Bon, pour l'heure, c'est pas possible parce que le commissariat de police même n'est pas encore en place. La gendarmerie, avec quelques éléments, n'est même pas opérationnelle. Et puis le tribunal inexistant, la cour d'appel inexistant. On suppose que lorsque le commissariat de police sera mis en place, la gendarmerie va être opérationnelle, le tribunal opérationnel, la cour d'appel opérationnelle. Je pense que c'est en ce moment qu'on va parler de fin de l'impunité. Parce qu'en ce moment, il n'y a personne pour pouvoir inquiéter ceux qui font le désordre public, ceux qui commettent des assassinats, qui ont commis des fautes et qui sont toujours là, dans la rue, sans être punis.
Vous avez attendu ce moment-là, le moment où justement on pourrait reprendre les choses en main ?
Oui, nous avons l'espoir que certainement après les élections, quand nous aurons le nouveau président, tout sera mis en place.
La ville de Bambari regorge de richesses. Il y a des diamants, il y a la culture du café. Tous ces commerces ont été, ces dernières années, accaparés par des groupes armés. Est-ce que vous, vous avez l'espoir que le rétablissement d'un pouvoir politique puisse mettre fin à ces trafics?
Avant la crise, c'est-à-dire en 2012, la ville de Bambari était une ville prospère. Une ville prospère où on exploitait l'or, la production en grande quantité du café qui était acheté par les Soudanais. Et ça faisait beaucoup d'argent. Il y avait aussi beaucoup de transactions. Mais malheureusement, avec cette crise-là, certains planteurs sont obligés d'abandonner leurs plantations. Donc on suppose que avec le retour à la normale, cette ville qui était jadis prospère va reprendre son élan.
Vous avez l'espoir que les groupes armés qui contrôlent ces trafics aujourd'hui abandonnent le terrain?
Je pense bien que si les Centrafricains ont pris les armes, je pense que c'est dû aussi à une partie à la pauvreté, la pauvreté, la misère. Je pense qu'avec le processus du DDR, processus de désarmement, réinsertion et puis rapatriement également, beaucoup vont abandonner les armes pour peut-être opter pour un métier.
Et c'est tout l'enjeu de l'accord de désarmement signé au printemps dernier par les principaux chefs de guerre. Il doit permettre de donner un avenir aux miliciens. Le texte prévoit d'intégrer une partie des combattants dans la future police, la gendarmerie et l'armée, tout en aidant les autres à revenir à la vie civile. C'est ce qui explique en partie le statu quo et l'arrêt des hostilités entre Séléka et Antibalaka à Bambari. Tous veulent de l'argent.
Et maintenant, c'est moi le général de Bois de Gaëtan. C'est moi le fils de la Waka.
Le chef des Antibalaka.
C'est moi le général de Antibalaka, ici à Bambari.
L'accord de désarmement, démobilisation, réinsertion prévoit qu'on intègre une partie des éléments Antibalaka ou Séléka dans l'armée, dans la police, dans les structures de l'État,
oui.
Et une autre partie qui reviendrait à la vie civile. Pour tous ces gens-là qui reviendraient à la vie civile, il faut leur donner un budget pour pouvoir démarrer dans la vie.
Oui, là c'est possible. Celui qui ne veut pas aller aux gendarmeries, la police, les FACA,
les forces armées,
c'est lui qui doit demander ce qu'il veut.
Un combattant anti-Balaka ici qui dépose les armes, il lui faut entre 200 000 et 300 000 CFA. Ça fait 300 euros.
C'est ça. Je peux dire 200 000, mais d'autre part, on a besoin de changement. J'ai commencé à désarmer mes éléments. Ça fait 87 personnes désarmées déjà.
Les armes que vous aviez, c'était quoi? Ce que vous rendez aujourd'hui, c'est quoi?
C'est les armes de chasse. Parce que nous, les anti-Balaka, on commence par les armes de chasse.
Des fusils?
Des fusils.
Il y a des machettes aussi, des couteaux, non?
Non, pas encore. Moi, le général Bois de Gaëtan, j'ai accepté de déposer les armes parce que je suis le fils du pays. Mais présentement, les peuples qui sont venus, ils sont venus avec les armes de guerre, Kalachnikov, pour moi. Et j'ai décidé et j'ai commencé à désarmer mes éléments.
Mais dans le même temps, dans la Waka, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des bergers qui traversent, qui sont armés. Il y a toujours des attaques.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Vous posez les armes aujourd'hui, mais finalement, la situation pourrait à nouveau repartir.
Oui. S'il s'agit d'arrêter tout ce qui se passe dans la brousse, ça peut arrêter. Je laisse ça à MINUSCA.
C'est leur responsabilité maintenant.
Oui.
C'est l'ONU qui doit gérer.
Oui, c'est l'ONU. Et maintenant, je donne les ballons à MINUSCA des Nations Unies.
Et la responsabilité aussi.
Oui.
Ils ont les épaules pour le faire. Sur la rive est, au quartier général des ex-Séléka, rebaptisé UPC, l'état d'esprit est le même. Avant de déposer les armes, les miliciens veulent des garanties et l'assurance qu'ils ne seront pas poursuivis après les résultats de l'élection présidentielle par le nouveau gouvernement.
Je suis le colonel Souleyman Daouda, conseiller politique de l'UPC et en même temps porte-parole de l'UPC.
La prochaine étape dans la réconciliation, vers la réconciliation, c'est le processus de désarmement, qu'on a appelé le DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Les anti-Balaka de l'autre côté de la rive affirment qu'ils ont déjà rendu des armes, qu'ils sont prêts à rendre des armes. Où est-ce que vous en êtes, vous, ici? Et quelles sont les conditions de sécurité dont vous avez besoin pour déposer les armes?
on s'est mis dans la logique de la paix. On suit le processus. Et tant qu'on est dans le processus, il n'y aura pas de désordre dans la zone. On avait sollicité de rentrer dans ce processus. Il y avait la lenteur, bien sûr, de la part du gouvernement et de la communauté internationale. Ils nous ont dit que ce n'est pas possible pour l'instant. Donc on attend, après les élections, avant de mettre en place le mécanisme adéquat pour envisager de rentrer dans le processus du DDR. Comme ce gouvernement de transition n'a rien fait pour nous, peut-être on espère que le président élu viendra avec un schéma que tout un centrafricain va se reconnaître dedans et la paix va vite revenir.
Et le jour où les forces armées centrafricaines ou l'État régalien revient ici, vous leur donnez les clés, vous leur dites maintenant c'est votre travail?
Mais c'est ça qui cause problème. Les gouvernements ne veulent pas voir la réalité en face. Ce pays n'a plus de force. On a un gouvernement. Personne n'a contesté ce gouvernement. Mais tous les centrafricains ont contesté la force intérieure de ce pays. Donc il faut refonder cette force. Si cette force est refondée, avec les proportions, il y a les musulmans, il y a les animistes, il y a les chrétiens, que tout le monde se retrouve dans cette force, je pense que cette force ne sera pas rejetée. Là où cette force ira, elle sera accueillie par le peuple centrafricain.
Comment est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui ce processus de réconciliation? Est-ce que ça passe par une mise à plat de tout ce qui a été fait? Est-ce que ça passe par des débats? Est-ce que ça passe par des jugements, par des procès? Et auquel cas, est-ce qu'il faut amnistier tout le monde parce que sinon on s'en sortira pas dans les deux camps? Quelle est la solution pour vous?
Dans ce conflit, tous les centrafricains sont coupables de quelque chose. Ceux qui ont pris les armes, ceux qui n'ont pas pris des armes, ils sont coupables. Il y a les degrés de délit. On va plaider pour qu'on classifie ces délits. Ça, si ça répond à des crimes, soit les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, ça, c'est impardonnable. Mais il y a d'autres crimes légers. Tu as pris une arme pour te protéger, pour protéger une population. Ça, je pense que c'est pardonnable.
Centrafrique vers la paix, les armes à la main. C'était un reportage d'Antoine Gignot, Gilles Gallinaro à la prise de son. Cette émission a été mixée par Philippe Bredin, réalisée par Anne Duro. Elle était assistée de Stéphane Combe et Zora Bensmaili. Et dans un instant, le journal de 10h sur France Inter. À dimanche prochain.
Bâtiment. Au bâtiment.